quatre jours étaient programmés pour la suite et fin du côté de Guermantes, du jeudi 19 au dimanche 22 février, avec des séances l'après-midi et le soir, tôt dans les deux cas, de sorte que la journée devait finir à 21h. Avant même l'engouement des banlieues pour Proust, Fabrice avait tenu à cette destination, qui eût pu paraître surprenante, mais qui se révélait précieusement écuménique. La clé des liens entre une œuvre vieille d'un siècle, sur un monde disparu, et des communautés si contemporaines qu'elles s'interrogent sur leur avenir, était sans doute que l'hypersensibilité individuelle de l'auteur de la première était ressentie collectivement par les secondes. Avec le même sentiment d'être au bord d'un univers clos, l'un et les autres aspiraient à la considération et à l'ascension, à l'ouverture des grilles. Les mêmes phénomènes se reproduisent des particuliers à la masse. C'était en tout cas ce que Fabrice ressentait, conforté par les nombreuses demandes d'associations culturelles de banlieue, de venir raconter les heures, bonheurs et malheurs de Marcel, petit frère et grand frère. Justement, sept étudiants réunis en un atelier baptisé « Lettres pour tous » firent une offre au Team Proust, comme il s'était proclamé pour rire. Voici ce qu'ils proposèrent. Futur professeur de français, nous sommes inscrits à l'IUFM de Gennevilliers. Jusqu'à maintenant, M. Pelletier s'est présenté tout nu. Nous voulons dire qu'il a commencé toutes ses séances sans introduction. Peut-être considérait-il que les publics d'Hillier Combray et de Cabourg n'en avaient pas besoin. En banlieue, installée dans la ZAC des Barbaniers, nous savons de quoi nous parlons, c'est une autre paire de manches. En réalité, et si Fabrice avait agi ainsi, c'est qu'il n'avait pas réfléchi du tout à la question. Même au Grand Hôtel, même chez Tante Léonie, une mise en perspective de ce qui allait suivre aurait été la bienvenue. Proust est à notre programme, nous l'aimons tout comme lui, et nous vous proposons de participer à la familiarisation d'un texte qui, nous le savons tous, n'est pas de la petite bière. Ce collectif avait beau être lettré, il n'en usait pas moins de clichés bien banaux. Si vous en êtes d'accord, nous viendrons à tour de rôle, dans toutes les futures séances, resituer dans l'œuvre les pages qui seront interprétées, les résumer, présenter les personnages principaux, attirer l'attention sur certaines scènes cultes. Ces garçons et filles, elles étaient majoritaires, arrivaient à point nommé. Antoine comprit d'autant plus la richesse de leur démarche qu'ils étaient venus avec quelques topos à soumettre à Fabrice pour qu'il validât et le fond et le ton. Armés qu'ils étaient pour répandre la bonne parole éducative dans des classes de collège où il y avait plus de nationalités que d'élèves pouvant espérer aller jusqu'à l'université, leurs textes étaient des petits chefs-d'œuvre d'érudition, de simplicité et d'humour. Fabrice fut emballé. Demeurait l'intendance. Le Team Proust considérait que l'atelier « Lettres pour tous » qui s'engageait jusqu'au tombé du rideau prévu en juillet devait être rémunéré. Il n'était pas raisonnable d'ajouter cette charge au docteur Speck déjà très sollicité. Il fallait trouver un autre contributeur. C'est Fabrice qui trouva la solution. Il avait croisé la route de Michel-Édouard Leclerc. Beaucoup de journalistes pouvaient dire autant, mais le maître S. Grande Distribution hantait avec application les rédactions. Et dans ce cas précis, cela avait une dimension particulière. Partenaire d'un festival littéraire dans sa Bretagne natale, lui, le bouillonnant commerçant, avait eu besoin de la contribution de Fabrice pour la réalisation d'un livre et lui avait laissé un message sur son répondeur. « Je ne sais si mon nom vous dit quelque chose. Je m'appelle Michel-Édouard Leclerc, je suis épicier et je souhaiterais vous rencontrer. » Il s'était vu, avait sympathisé, découvrant avec stupéfaction que le « du bruit » dans l'anderneau du journaliste avait obligé l'épicier à renoncer à prendre ce même titre pour ses mémoires, devenu « du bruit dans le l'anderneau ». Fabrice chargea son frère de contacter le commerçant lettré qui affichait son groupe comme investisseur dans les espaces culturels. La réponse fut conforme à son image. Il parrainerait financièrement l'atelier, ne réclamant en échange que des places à chaque session pour des employés des centres Leclerc. Pour en revenir à Proust, à Créteil, Fabrice éprouvait une réelle fierté d'avoir voulu cette présence hors les murs, au sein d'un monde bigarré, riche de ses différences, mais ignoré des élites ou boudé par elles. Il avait visé juste, car c'était la foule des grands jours le jeudi, dès midi pour venir à l'écouter à 13h. Installé au Novotel Créteil-le-Lac, ce qui lui permettrait des promenades régénératrices au bord de l'eau. Et il se réveilla tard, déjeuna frugalement. Il avait fait un brouillard froid qui ne s'était pas levé que vers midi, et Fabrice sortit emmitouflé dans un grand manteau de vigogne. Déjà, tous les âges, tous les milieux convergeaient, se pressaient vers la place de l'abbaye, qui abritait la médiathèque de Créteil, la Bibimélie. Un illustre cristolien cherchait à se fondre parmi la foule, Harry Roselmack, présentateur chouchou de la télé. L'entourage de Fabrice se préparait à gérer la venue de célébrités tenant à s'afficher au coude à coude avec le peuple. Pour l'heure, c'était aux autorités à veiller à ce que tout se passât sans anicroche. C'eût été un comble qu'on s'écharpât pour Proust. Des forces de l'ordre discrètes stationnaient aux alentours et les candidats spectateurs avançaient avec la tranquillité de ceux qui se savent à l'abri de tout reproche. Cette fois, la crainte qu'on peut parfois ressentir dans un groupe en mouvement était absente. On allait particulièrement se cultiver, pas cultiver cette particularité. Marcel, nous voilà. Quelques centaines de personnes purent entrer et découvrir sur la scène surélevée le décor reconstitué d'une chambre de chez Tante Léonie. Et des milliers d'autres bâtirent le pavé de la place, sonorisé et équipé de deux écrans géants, qui dans sa djellaba, qui dans une cape, qui dans ses salopettes de travail, qui en costume recouvrant un pull, la plupart la tête couverte d'un chapeau, d'un capuchon, d'un béret, d'un voile, d'une mantille. Le maire, sémillant dans un camaïeu de mauve, s'inquiétait de la turbulence de cette foule qui s'installait, mais dès que la voix de Fabrice se fit entendre, un silence intense s'installa aussi. Comme promis, une sociétaire de Lettres pour tous fit d'abord, en un quart d'heure chrono, une présentation permettant à tous et à chacun de se sentir à l'aise, d'avoir des notions de base, mais indispensables, avant de recevoir la parole proustienne. La mort rôda dès le début de cette nouvelle série de récitations. Dans des scènes célèbres, la disparition de la grand-mère chérie du héros s'annonçait avec un médecin pestant contre un bouton d'ascenseur, examinant la vieille dame, plaisantant devant elle, éclatant de rire et confiant finalement à son petit-fils qu'elle est perdue, avant de se consacrer à une histoire de boutonnière. D'entrée, Fabrice, qui avait posé ses fesses sur le bord du lit, s'était métamorphosé face au public en métronome humain. Du grand art, admira Farid, finalement pas plus dans son élément ici que dans les lieux précédents qu'il s'était appropriés, regardant les spectateurs du dedans. Tous furent hypnotisés. On n'osa plus proférer un son, bouger une chaise. Le récit se poursuivit sur l'attention portée à la grand-mère, à la maison, et dont l'état se dégrade, au point qu'elle ne voit plus pendant quelques jours, puis qu'elle devient sourde, et que sa parole se fait inintelligible, et qu'enfin, elle ne reconnaît pas son petit-fils. Spontanément désordonnés, les spectateurs étaient tentés de remuer, mais plus l'issue fatale approchait, et plus ils s'assagissaient. Ils restèrent saisis quand la mort accomplit son œuvre. Encore quelques mots, et Fabrice se retirait, ne semblant pas toucher terre. Pour la première fois, une séance s'achevait sans marque de félicitations. Chacun aurait trouvé indécent, alors qu'une vieille dame gisait sans vie dans la pièce, qu'on exprima une satisfaction. Alors que le lit était vide, le public quitta, muet, la salle transformée en chambre mortuaire par l'envoûtement des mots et le sortilège du ton.